Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, membre du groupe Libertés et Territoires, président de la commission d'enquête sur les migrations de l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Sébastien Nadeau, vous avez conduit pendant 6 mois une mission parlementaire sur les migrations. Vous avez publié un rapport. Pourquoi cette mission? Qu'avez-vous cherché à savoir?
D'abord, cette mission, elle est venue d'une demande du terrain. Une demande du terrain de gens qui sont proches des personnes migrantes, à les aider quand ils en ont besoin, que ce soit sur les points frontières ou bien ailleurs sur le territoire. Et il y a 5 associations ou ONG qui véritablement nous ont régulièrement sollicité. Je dis nous parce que c'est avec le groupe Liberté et Territoire que cette commission d'enquête est née. Et donc ces 5 associations sont des associations comme le Secours catholique, Amnesty International, la CIMAD, Médecins sans frontières et Médecins du Monde. Ces associations nous rapportaient un constat de terrain assez inquiétant sur un droit notamment à demander l'asile aux frontières qui n'était pas respecté, avec des refoulements à Menton, à Briançon, des conditions de vie, d'hygiène tout à fait déplorables dans les squats en Île-de-France, dans les camps à Calais. Et donc, dans un premier temps, il a été question d'aller un petit peu jeter un œil avec ces associations sur le terrain pour s'apercevoir qu'il y avait effectivement un certain nombre de choses qui paraissaient pas acceptables du point de vue d'abord de la question de la dignité humaine. Et donc, véritablement, cette commission d'enquête, elle est née avec la volonté de mesurer l'écart qui existe entre le droit français auquel on est assujetti et qui est le lieu de regard du parlementaire quand il est dans sa mission de contrôle parlementaire, l'écart qu'il pouvait y avoir entre le droit national, le droit international auquel la France a accepté d'être partie, et la réalité du terrain. Et donc cette commission d'enquête pendant 6 mois a consisté à recueillir des témoignages de migrants qui sont quand même, faudrait-il l'oublier, les premiers au contact des politiques publiques migratoires françaises. Donc c'était intéressant de les interroger et on a commencé par eux en termes d'audition à l'Assemblée nationale et puis tout au long de la commission d'enquête à les écouter sur le terrain. Bien évidemment, on a fait une commission d'enquête où il s'agissait de voir aussi avec les services publics en charge des politiques liées aux personnes étrangères sur le territoire national. Et donc ça nous a amené en bien des lieux, bien des endroits. Et puis il y avait cette volonté aussi de comprendre le phénomène migratoire et d'essayer de trouver des solutions, mais en partant de ce principe qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'un phénomène migratoire, il n'est pas à l'intérieur simplement des frontières hexagonales, mais c'est bien de pays de départ jusqu'à un passage en France, comme ces gens qui se massent à Calais pour aller ailleurs, ou bien pour une installation en France. Donc il y avait ce regard dans sa globalité aussi qui voulait permettre de mieux comprendre l'étape française. Et donc on a fait un certain nombre de constats au cours de ces 6 mois dont on a rendu public les conclusions pas plus tard qu'hier.
Alors Sébastien Nadeau, vous évoquez une maltraitance d'État vis-à-vis des migrants. Considérez-vous que la France bafoue l'état de droit sur le traitement des personnes migrantes? Est-ce que c'est un problème systémique ou bien ce sont des dérives individuelles?
C'est un problème systémique. C'est la conclusion à laquelle j'ai pu arriver. Le fait est que la France bafoue l'état de droit concernant le droit auquel peut prétendre un étranger quand il est sur le territoire national. Et si j'estime que c'est un problème systémique, c'est parce que quand on regarde les questions d'hébergement, on se dit il y a un problème. Régulièrement, quand il y a des évacuations de squats ou de camps, ce qui est appelé mise à l'abri n'en est pas une. Et quand on veut appeler le 115 à ce moment-là, qui est le service d'hébergement de l'urgence, parfois on n'a pas de réponse, et puis parfois on a une réponse au bout de la ligne qui nous dit que ben, il n'y aura pas de solution pour ces personnes. Donc quand on regarde du côté de l'hébergement, on se dit il y a problème. Alors si c'était seulement l'hébergement, on pourrait se dire il y a un problème au niveau français global sur le logement. Donc qu'il ait des répercussions sur les migrants, c'est somme toute que logique. Mais quand on va regarder sur l'accès à la santé, par exemple, là encore, il y a une mise à l'index, une mise à l'écart des populations migrantes. Et le cas qui peut-être est le plus évocateur, il existe en France, c'est le droit et rien que le droit, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui est adressé aux personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Donc pour ces personnes-là, on considère en France, et c'est fort juste, qu'ils doivent pouvoir accéder au système de santé, particulièrement quand ils ont des besoins assez évidents et urgents. Et on a pu constater que un certain nombre de caisses primaires d'assurance maladie sur le territoire national mettaient beaucoup d'obstacles, et des obstacles qui ne sont pas du tout réglementaires, qui sont contraires à la manière dont ils devraient procéder pour délivrer cette aide médicale d'État. Et donc, là aussi, on s'est aperçu que finalement, quand on est en situation irrégulière, eh ben, on n'a pas le droit d'avoir une rage de dents. Donc on s'est dit, bon, hébergement plus accès aux soins, c'est quelque chose qui questionne. Et puis on continue le cheminement. L'accès à l'administration. Eh bien, quand on veut demander l'asile, demander un titre de séjour, qui sont deux choses différentes, hein. On peut demander un titre de séjour au titre de l'asile, mais il y a bien d'autres cas de figure qui peuvent se proposer, s'offrir aux personnes étrangères. Une grande majorité des personnes étrangères ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous, simplement un rendez-vous pour enclencher une procédure de demande de titre de séjour. On en est là, tout le monde s'est caché derrière le numérique, mais en réalité, le numérique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de rendez-vous qu'on ne peut pas prendre parce que le serveur de la préfecture, ça va être en Loire, ça va être en Haute-Garonne, ça va être dans la Saône, dans toutes sortes de départements, on a fait le constat qu'on ne peut pas prendre de rendez-vous en numérique. Et il a échappé à personne que la plupart des accès à des guichets humains ne sont plus possibles non plus. Donc l'accès à l'administration, ça a l'air de rien, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'on peut vivre normalement, correctement, dans un pays comme le nôtre. Et puis on continue, on peut dérouler, il y a l'accès à la justice, alors là c'est peut-être le pompon, je dirais, parce que tout ce qui concerne la justice vis-à-vis du droit des étrangers est dans une situation d'embolie complète, que ce soit les tribunaux administratifs pour des demandes de titre de séjour ou des recours, et que ce soit la Cour nationale du droit d'asile, où on peut se retrouver avec cette situation où il faut finalement étudier plus d'une dizaine de dossiers en 4 heures de temps pour des magistrats qui n'ont pas toujours pris connaissance par avance des dossiers. Donc une vingtaine de minutes pour savoir si quelqu'un peut prétendre à l'asile quand il s'agit de délivrer des informations très intimes sur, par exemple, son homosexualité et dans quelles conditions sociale dans le pays de provenance cette homosexualité est sanctionnée. Alors ça peut être pénalement, mais ça peut être aussi par la société. Bref, en une vingtaine de minutes, on ne peut pas rendre justice en la matière. Et donc là aussi, la justice, bah, elle met à l'écart les personnes étrangères. Et puis si on continue, et là, je crois que c'est peut-être le plus frappant, c'est sur l'accès à l'éducation et le droit à l'enfance. Le droit à l'enfance, on est dans un pays, en France, où on continue de mettre dans des prisons administratives des enfants au seul et unique motif que ce sont des enfants migrants. C'est quelque chose qui est, pour le coup, encore dans la loi, mais cette loi, c'est peut-être la première modification qu'il faudra faire. Cette loi, elle est condamnée tous les ans à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette loi, elle est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfance. Cette loi, elle a été critiquée et la défenseure des droits a demandé au gouvernement et au Parlement de la modifier. Donc on a quelque chose qui est extrêmement problématique de ce côté-là. Mais on a aussi, sur les questions éducatives, cette question d'évacuation des squats, où moi j'ai pu voir ces situations où on évacue des enfants en milieu de semaine, le matin, éventuellement juste avant qu'ils partent à l'école. Et puis, ces enfants se retrouvent à aller dormir dehors. On est en France, hein, à aller dormir dehors pendant 3, 4, 5 jours, sans qu'aucun service de l'État ne prenne la mesure de ce qu'ils ont fait en évacuant le squat. Mais plus grave encore, sans prendre aucune mesure pour alerter l'éducation nationale, qui a beau essayer véritablement de porter tous les enfants dans le système éducatif, mais quand les enfants ne viennent plus parce qu'ils sont faits sortir du lieu où ils résidaient, eh bien l'éducation nationale est démunie et les enseignants, les instituteurs sont bien en peine pour pouvoir retrouver les enfants et leur faire retrouver surtout le chemin de l'école.
Les Français semblent indifférents au sort des migrants. Vous nous expliquez la façon dont l'État bafoue leurs droits aujourd'hui. Comment expliquez-vous cette indifférence, sans parler du climat d'hostilité entretenu par certains courants de pensée? Qu'est-ce que ça nous dit du climat en France?
Alors d'abord, il n'y a pas de l'indifférence. D'abord, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui ne savent pas. Tous les gens qui habitent dans les grandes métropoles ne savent pas à quel niveau de souffrance et d'inhumanité se situent des gens juste à côté de chez eux. Donc il y a un phénomène d'ignorance parce que, typiquement, le discours politique concernant les questions migratoires, qui est un discours politique complètement fantasmé sur une espèce d'insécurité adossée systématiquement à l'étranger, finalement, ce discours fantasmé ne rend pas compte de la réalité. Donc des gens qui sont pas confrontés directement parce que justement ils sont enseignants et ils ont des enfants dont ils voient bien qu'ils sont pas lavés pendant plusieurs jours, dont ils voient bien qu'il y a eu un problème parce que ils sont pas en état satisfaisant pour suivre en classe. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cette situation, mais il y a aussi beaucoup de gens sur le terrain qui sont extrêmement soucieux et extrêmement attentifs à apporter une aide et un petit peu de réconfort à ces populations. Et finalement, il y a un très très grand décalage entre ce que le discours politique renvoie des étrangers et ce que le discours médiatique relaie des étrangers et la réalité, à la fois la réalité du vécu des migrants et aussi celle de cet esprit qu'on retrouve partout sur les territoires. Il y a énormément de gens qui sont très solidaires, qui font des choses extraordinaires, mais tout ça est complètement masqué parce que la doxa actuelle, c'est de présenter toute la question migratoire et celle des étrangers adossée à l'insécurité, et adossée au terrorisme, et puis maintenant à ces grandes théories du grand remplacement et que sais-je. Donc voilà un petit peu le panorama qu'on peut ressortir de ça. Mais il faudrait pas imaginer qu'il y a dans notre pays, chez les Français, une perte de sens par rapport à la question de l'humanité, de tout individu dans le rapport qu'on peut avoir. C'est pas quelque chose qui s'est perdu. Je dirais même bien au contraire, hein, quand on va à Besançon, quand on va à Calais, c'est assez impressionnant quand même de voir le soutien qu'apportent les populations localement à ces personnes.
Alors vous faites un certain nombre de recommandations à l'occasion de la publication de ce rapport. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu par le gouvernement dans cette période électorale un peu électrique ?
Ben écoutez, je vous disais déjà sur un point d'attention qui est celui de continuer à mettre des enfants en prison dans notre pays seulement parce que ce sont des enfants étrangers. J'ose espérer que le gouvernement va l'entendre, parce que véritablement, si on interroge les gens dans la société française, on va s'apercevoir que sur arrêter ce massacre, je dirais, parce que il faut voir quand même les conditions. Moi, j'ai visité 4 ou 5 centres de rétention administrative là. C'est vraiment une atmosphère étouffante et c'est aussi une mise en rupture la plupart du temps avec la relation scolaire qui est quand même fondamentale. Et donc sur ça, moi j'ai bon espoir que le gouvernement soit simplement un petit peu en écoute de la société française et surtout se mettre au niveau du respect du droit international tel qu'il s'y engageait. Il y a des solutions, elles existent. Financièrement, elles sont plutôt à coûter moins cher. Donc se priver de cela, il faudrait vraiment que ce gouvernement, et là même électoralement parlant, soit un petit peu suicidaire pour ne pas aller vers ça. Il y a d'autres mesures qui devraient s'imposer, qui vont probablement s'imposer par la force. Moi, je pense à la situation à Calais. Les grévistes de la faim ont stoppé leur grève aujourd'hui. Ils n'ont pas stoppé leur combat, et bien évidemment, ils ne le stopperont pas tant qu'il y aura matière à réclamer de la part de la puissance publique toute autre chose. Et donc là, il y a quelque chose d'évident, mais vraiment d'évident, et qu'on retrouve à Calais de manière exacerbée, à Briançon de manière exacerbée, mais en bien d'autres endroits du territoire. La puissance publique n'est pas capable d'apporter le niveau de dignité nécessaire sur le terrain. Donc, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'un relais, le relais associatif, pour faire un bon travail sur le terrain. C'est quand même incroyable que dans le pays qui est connu sur toute la planète pour sa capacité d'intervention dans les situations humanitaires d'urgence, et on n'a pas à en rougir, on a plutôt à s'en glorifier quelque part. Eh bien, dans les situations humanitaires d'urgence à l'intérieur des frontières, la puissance publique dit « Ah non, stop, là, plus on veut plus des humanitaires, on travaille pas avec eux ». Une de mes préconisations, c'est de remettre en place un vrai dialogue dans les territoires où c'est extrêmement compliqué, où il y a une tension évidente sur la question migratoire. Calais, Grande-Synthe sont des cas du moment évidents. Il faut que les associations et les services de l'État retrouvent le chemin du dialogue.
Merci Sébastien Nadeau. Je rappelle que vous êtes député de Haute-Garonne et président de la commission d'enquête sur les migrations de l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.